France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un homme de radio, de plume, de parole. Mais avant cela, dans sa biographie, un coiffeur pour dames, amateur de canulars, un homme qui rencontra en chair et en os Hitler, Staline, De Gaulle, alors que lui-même n'était pas, loin s'en faut, un homme politique. Un homme qui aimait le vieux Paris, l'occultisme, la collection d'objets magiques, un homme aujourd'hui méconnu en fait. Ou alors, si on le connaît, c'est pour la réédition récente de Rue des Maléfices. Jacques Yonnet, le héros d'Un homme en liberté, une série de 7 émissions diffusées en 1963, dont voici, cette nuit, les 4 premiers épisodes.
Lucien Farnoux-Reynaud présente Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Première émission.
Il serait normal, et selon la bonne règle, de donner aux auditeurs des précisions sur Jacques Yonnet et de le définir. Ce personnage pittoresque, ce fantaisiste aventureux, ce curieux de toutes choses et surtout de la curiosité, cet érudit paradoxal, cet écrivain savoureux, n'a pas encore pris le temps d'accéder à l'audience du grand public. Il a trop à voir, à écouter, à comprendre, à créer de tout et de lui-même, pour penser à sa réussite. D'apporter des précisions, on resterait incomplet. Le définir serait le diminuer, et on retirerait à l'émission mille effets de surprise. Cette existence est toute de suspense, comme diraient ces messieurs du cinéma. Il en est de même des démarches de cet esprit. Laissons donc vraiment en liberté Jacques Yonnet évoluer devant vous et se révéler peu à peu.
Je suis un enfant de la guerre. Né à Paris en juin 15, alors que mon père se trouvait aux Dardanelles. Il est le seul survivant d'une famille très éprouvée par la Grande Guerre. 5 de mes oncles sont morts à la guerre ou de ses suites. Je suis né rue Ferdinand Duval, en plein ghetto.
Pourquoi dans le ghetto ?
Ça procède déjà d'un concours de circonstances assez particulier. Père, compagnon du devoir. Ma grand-mère paternelle, hôtelière à Sainte, était la mère des compagnons du Tour de France. Le père peintre décorateur, doreur, modeleur, faux bois, faux marbre. D'une extrême habileté dans tous les travaux fins du bâtiment. Oncle, Charles Desplanques, un autodidacte qui faisait dans l'anarchie théorique et sentimentale. Il était le bras droit du philosophe Jean Grave qui dirigeait les temps nouveaux. Immense bon vouloir. Il se référait aux idées d'un utopiste russe, le prince Kropotkine. Aussi un nommé Bakounine, anarchiste et idéaliste hegélien, en toute simplicité. J'ai essayé de lire leurs ouvrages, un fatras parfaitement indigeste. Mon autre oncle était Albert Nicollet, qui a laissé un nom dans l'histoire du socialisme en France. Menuisier de profession, Nicollet est l'un des fondateurs de la CGT. Il a précédé Jouot au secrétariat de la Fédération du bâtiment, alors que Desplanques était gérant responsable de la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau. À la suite d'un malentendu, en 11 ou 12, mon oncle Desplanques et le préfet Lépine se sont colletés sur le trottoir, devant la bourse, et comme ils étaient aussi petits et aussi peu physiquement combatifs l'un que l'autre, gros succès de rigolade. Mon père est venu à Paris pour trouver de l'embauche en 1904. Il s'est installé dans une petite chambre extrêmement modeste, rue des Rosiers. On lui propose un contrat pour quelques villes d'Europe. Il avait entre-temps fait la connaissance d'un casquetier juif, fort aimable, et qui ne dédaignait pas de faire du porte-à-porte pour vendre ses grattes, c'est-à-dire les casquettes qu'il fabriquait pour son propre compte. Le nom du casquetier était Léon Trotsky. Il était souvent accompagné d'un petit russe, très affable, très souriant, d'une mémoire et d'une intelligence étonnantes, et passionné du jeu d'échecs. Le petit russe se faisait appeler Oulianov Vladimir. Grand-mère, qu'il aimait bien, l'appelait Vladi. Il lui arrivait de s'engager comme extra dans les restaurants, voire comme domestique. Il fut durant 2 mois valet de chambre chez un jeune peintre nommé Jean-Gabriel Domergue. Plus tard, on ne le connut que sous le pseudonyme qu'il s'était choisi, Lénine. Donc, mon père céda sa petite chambre avec le mobilier précaire qu'elle contenait à nos deux Russes. Quand il revint à Paris, nos bons hommes avaient loué, rue Ferdinand Duval, là où je suis né, au 15, deux appartements contigus, plus un dans les étages. C'était bourré de livres, de paperasses, de dossiers, de presse à copie-lettres. Un jour, mon père et ses copains prêtèrent la main à toute une bande de Russes, de Bulgares, de Hongrois, qui avaient décidé de déménager tous bidules et d'émigrer vers Grenelle. Et c'est ainsi que mes oncles et tantes et mes parents occupèrent les locaux devenus vides.
As-tu des souvenirs personnels sur ces deux hommes qui ont bouleversé le monde?
Oui, mais surtout les propos que Paul Fort a tenus devant moi. Il avait bien connu Lénine et Trotsky à la closerie des Lilas et dans les bistrots de Montparnasse. Ils se réunissaient comme des conspirateurs, alors que personne ne les prenait tellement au sérieux. Ils palabraient comme quand des Russes s'y mettent interminablement. C'est dans ces conditions que Lénine a écrit avant la guerre, avant Brest-Litovsk par conséquent, le programme militaire de la révolution prolétarienne, qu'on a trouvé moyen de diffuser à Paris dans le courant de l'année 1916, en pleine bagarre. Paul Fort prétendait avoir été témoin de l'ahurissement de Lénine et Trotsky lorsque des émissaires sont venus le supplier de rentrer en Russie. Mais Paul Fort, hein, c'est un poète.
Dans les milieux socialistes et syndicalistes, d'alors, on palabrait beaucoup et se rencontrait plus encore. Quelles étaient les familles de tes parents?
J'ai été bercé, en quelque sorte, par les noms et les souvenirs que l'on égrenait chez nous à tout propos. Le docteur Pierrot, c'est lui qui m'a mis au monde. Père de notre consoeur Henriette Pierrot de France Soir. Charles Malateau, écrivain révolutionnaire et militant libertaire. Vincent Auriol, jeune avocat, qui donnait des consultations et rédigeait à l'occasion des chroniques juridiques dans l'almanach de la guerre sociale. N'étant pas membre du groupe, il acceptait d'être rétribué. Tarif unique, 100 sous. Il y avait aussi Pierre Laval, avocat à la cour, très très pauvre, et qui défendait les socialistes, anards et syndicalistes de l'époque. Il avait en permanence peur de se mouiller, pour un oui, pour un non, prenait le train de Bruxelles. On parlait aussi beaucoup chez nous de vieilles connaissances, les peintres Signac, Grandjouan, il vit encore, Bernard Naudin, Maximilien Luce, grand ami de mon oncle Desplanques. Il faisait partie de l'équipe des temps nouveaux. Il y avait aussi Albert, dit Libertad, un boiteux barbu, le savant Élisée Reclus et Almereda de la guerre sociale, que l'on a trouvé étranglé dans sa cellule. Et puis les gens de l'en dehors, Zodaxa, Tabaran et d'autres.
Malgré ta jeunesse, tu en as conservé des souvenirs précis.
Ils ont marqué ma mémoire. Il faisait les frais de toutes les conversations un peu sérieuses. Mais aucun d'entre ceux qui venaient chez nous n'a trempé dans ces fameuses vagues d'attentats, voire même d'expéditions récupératrices, effectuées soi-disant pour la cause. On ne parlait pas encore de hold-up. Et chez nous, les ravacholes, les casériaux n'étaient pas très prisés. Nous avons bien connu aussi les petits rigolos, comme mon père les appelait, en particulier Montéus, l'auteur de La Jeune Garde. Lénine l'admirait tellement qu'il lui a consacré une bonne demi-page dans ses mémoires. Avant la guerre, en 6 ou 7, Montéus avait pondu un truc dont tout le monde s'est souvenu très longtemps après. C'était dédié au tsar assassin. « Debout, debout, au peuple de misère, il faut venger ceux qui sont au tombeau, plopopo, puisqu'ils ont tué les enfants et les mères. Pas de pitié, massacrons les bourreaux, plopopo. » Évidemment, dans les cafcons de Paris, il risquait plus grand-chose. Montéus a fait une crise de tricolorite dans le genre « armons-nous et partez » qui lui a duré juste le temps de la guerre. Après, il a refait dans le social. C'était plus rentable. Nous avons connu aussi Charles Davray avec sa jaquette, ses longs cheveux, sa face rasée, sa lavalière, ses airs solennels.
Alors, c'était les arrivistes, les opportunistes, comme on en trouve dans tous les mouvements, à toutes les époques. Ils font souvent du tort aux sincères et on les confond avec les vrais caractères originaux.
Des originaux, ben, ça manquait pas. En particulier, le fameux cochon des raffuts de Sainte-Polycarpe, avec les cracophones, un instrument de son invention, c'était épouvantable, et ses déménagements à la cloche de bois. Cochon est mort très vieux. Jusqu'au dernier moment, il est resté égal à lui-même. Alors que de tous les originaux, comme tu dis, certains sont devenus franchement dingues, et ont sombré dans la cloche absolue. On en a retrouvé d'autres rangés, méticuleux, affreusement bourgeois. Même des fois très riches, comme Duberos qui a fini gros proprio place des Vosges, et pas tellement dans leur assiette quand on évoquait leur péché de jeunesse.
Tu as la mémoire si encombrée qu'elle devient à son tour encombrante.
Encombrante, à ça oui, c'est bien le mot. En automne 17, j'avais 28 mois, grand-mère m'avait emmené au marché Saint-Paul, rue Saint-Antoine. Quelque chose de rapide s'est passé dans le ciel. Un avion allemand, un Taube, venait de balancer une bombe sur les magasins du bûcheron, juste devant la pointe Rivoli. Ça a crevé une grosse conduite de gaz, une grande flamme jaune et bleue qui léchait tout l'immeuble, les gens qui couraient, la panique, la lumière, grand-mère qui m'attrape comme une louve, qui survole la rue pour m'emporter chez nous. Oh, ce que j'étais content! C'était mon premier souvenir bien précis. Ah oui, c'était beau.
Beau? Les enfants ont souvent des armes à la déroulette, et sur les bras de ta grand-mère, tu acclamais la guerre de la revanche.
Oui, il y avait la guerre. Les Parisiens s'étaient installés dans la guerre. Moi, je ne pouvais pas faire la différence. J'adorais les alertes. Ce qui faisait boum, ce qui affolait le chat, surtout la nuit. On entendait un vrombissement de moteur, ou bien les éclatements, la berta, et tout de suite après les pompiers qui sonnaient la berloque. Alors tout le monde allumait sa bougie pour descendre à la cave. On me fourrait jusqu'au cou dans une sorte de sac. On me prenait sous le bras, on me transbahutait comme un paquet. Dans un autre sac, plus petit, il y avait les tickets de rationnement. Les bons de lait, les papiers précieux, l'argent de la maisonnée. Chez nous, il y avait quelque chose à sauver. L'une de nos voisines, la mère Morose, qui habitait une sorte de soupente au cinquième, elle était déjà veuve de guerre, pas de loyer, ne possédait rien. Mais alors, rien de rien. Juste une vieille grosse pendule de marbre noir, laide, massive, moche et lourde. Alors la mère Morose, pour faire comme tout le monde, descendait sa pendule en soufflant, et puis elle la remontait. Personne ne s'est jamais moqué d'elle. Elle est morte avant la fin de la guerre. C'est la pendule qui l'a claquée. Il y avait aussi les zeppelins, les dirigeables, on disait. De longs cigares qui résonnaient profond. Ça faisait vibrer la peau du ventre. Pendant ce climat de guerre, cette vie sur les dents, dont je ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas normale, il y avait encore autre chose, quelque chose de vraiment important. D'insolite, de bizarre, de rare, c'était la faune qui peuplait ce quartier. Ces innombrables juifs venus de tous les ailleurs, Pologne, Russie, Lituanie, Roumanie, Turquie, à l'époque absolument pas assimilés, ne parlaient que le yiddish. Dès que franchit notre porte, c'était nous, les Français, qui étions des étrangers. Mes premiers pas d'enfant sur notre palier me furent un dépaysement. Plus tard, on a exactement parqué dans notre quartier des petits Bretons avec leur mère, des fils de tués, venus de l'intérieur des terres, sans ressources. Beaucoup étaient Bretons, bretonnants, ne savaient pas un mot de français. Avec les Juifs, ils s'entendaient beaucoup plus facilement que nous autres, notre infime minorité. Ils ont, aux récréations, forgé un vocabulaire de convention. Beaucoup de mots à consonance germanique dans le yiddish usité rue des Rosiers, rue des Hospitalières. Alors, nous avons eu l'oreille forgée à d'autres sons, ce qui impliquait un mécanisme d'esprit différent, devenu pratiquement bilingue. Seulement, dans tout ça, encore une fois, il y avait la guerre. D'un côté, l'atmosphère désagrégeante du ghetto, ces odeurs d'Orient, de friture, ces mélodies, ces mélopées lancinantes, désespérées qu'on entendait le soir, avec toujours la guerre comme toile de fond. Les femmes juives à perruques, on leur rasait le crâne, c'était rituel, le jour de leurs noces, ça repoussait quand ça avait le temps. Elles priaient à haute voix pendant les alertes. Et puis, les éclatements. Avec la berta, c'est devenu sérieux. Un boum, sourd ou violent, toutes les 10 minutes. Après l'hécatombe de Saint-Gervais, tout près de chez nous, ma mère était à bout. Elle m'a emmené dans l'île d'Oléron, là où nous avions un parent qui est resté célèbre en Charente et bien au-delà, le père Montaud, un très fameux guérisseur. Maintenant encore, on l'appelle le bon Dieu de l'île, ou le bon Dieu de Saint-Just. Nous sommes arrivés chez lui, en même temps qu'une tribu de bohémiens qui ont campé près de la plage, à Labré. Ils venaient beaucoup plus en pèlerinage que pour se faire soigner. En pleine guerre. Révélation de la mer, de la musique endiablée, cette débauche de couleurs, ces gens extraordinaires qui me manifestaient à moi de l'amitié, c'était merveilleux, merveilleux.
Tu n'es revenu à Paris qu'après l'armistice.
Oui, je n'ai fait la connaissance de mon père qu'en 19. C'est, je crois, l'année suivante que mes deux oncles Desplanques et Nicolet m'ont emmené à une cérémonie place du Panthéon où l'on inaugurait une statue très laide en plâtre patiné bronze de Jaurès, faisant un discours. Nous étions assis au premier rang, et j'avais remarqué une petite bonne femme en noir, cireuse et toute menue, qui s'était faufilée parmi les officiels. Un moustachu en redingote, petit et très énervé, a dit des choses interminables. Un moment, il a comparé Jaurès au Christ. Les gens tiquaient. Alors on a entendu une voix perçante, c'était ma bonne femme. « Le Christ, il t'emmerde !»
Cette réplique peu académique, mais péremptoire, servira de conclusion à cette première émission et nous allons laisser Jacques Yonnet un peu grandir.
Lucien Farnoux-Reynaud vous a présenté Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Prise de son Serge Métifio, collaboration technique Daniel Raffi, assistant de production Jean-Pierre Pinet. Lucien Farnoux-Reynaud présente Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Deuxième émission.
Mon cher Yonnet, nous t'avons laissé au moment de l'après-guerre, à cet instant, par un simultanéisme curieux, naissait une nouvelle époque. Et tu quittais la prime enfance. En toi, commençait à naître l'adolescent qui deviendra un homme.
Il m'arrive d'avoir des surgissements de mémoire et la nostalgie de cette époque. Le temps des baraques Villegrain, des mi-carèmes somptueuses, des mardis gras où tous les petits garçons se déguisaient en militaires, généraux de préférence. Ici, à la Maubert, à la Mouffe, on rencontrait des gens vraiment très pauvres, surtout des étrangers. J'ai vu des enfants de mon âge aller pieds nus, mais très vite les caisses des écoles leur ont fait distribuer des galoches. Dans les escaliers, ça faisait badaban, badaban, badaban. J'éprouve encore maintenant une extraordinaire reconnaissance, évidemment rétrospective, pour le personnel enseignant, les institutrices et les maîtres, comme on disait. Quelle patience, quel dévouement.
Tu habitais toujours le ghetto?
À part mes voyages, jusqu'au régiment, j'ai été fixé dans le ghetto, où nous étions fort bien logés. J'ai eu tout le temps d'observer les prodigieuses facultés d'assimilation des petits juifs, grâce surtout à l'éducation que nous recevions à l'école, où jamais, jamais, je n'ai entendu parler d'un antagonisme quelconque entre les différentes communautés. Vraiment, de part et d'autre, respect absolu des traditions, des coutumes, des croyances, des modes de vie. Dans notre quartier, derrière l'hôtel de ville, c'était une atmosphère de travail, de labeur patient, acharné, impitoyable. Et puis, cette poésie extraordinaire des rues médiévales, rue des Écouffes, rue Vieille du Temple, passage des singes, le violonneux qui précédait les noces, parfois aussi les enterrements, accompagné de pleureuses, comme en Orient. Un climat à la Chagall.
Chagall, le grand peintre russe, qui nous a apporté tous les mirages de l'immense nostalgie juive et de la poésie singulière des ghettos d'Europe centrale.
À qui le dis-tu ? Chagall est un homme du destin. En 54, j'anticipe, on me demande un papier pour le vernissage de son exposition Paris fantastique. Il fallait une histoire sur le pied-à-terre qu'il venait d'acheter à Paris dans la cité qu'est de l'horloge. Une histoire n'en fut-il plus au monde ? J'arrive chez Chagall, qui me demande si j'ai trouvé l'histoire. C'est celle du violon qui vole, je lui dis. Il change de couleur. Votre maison, c'est un Chagall, car sous Philippe le Bel, il n'y avait plus de pont neuf. Ici, des brocanteurs juifs, là-bas le palais du roi. Un maître à danser à la cour négocie une viole d'une grande beauté. Je ne pourrai vous la payer qu'en trois fois, mais je veux l'emporter. Quelle garantie me donnez-vous ? Mon nom est Tsingar, aussi vrai que vous êtes Slabiak. Juif comme vous, je suis un faux chrétien. Sur votre dénonciation, on me brûle vif. Emportez l'instrument. Mais si notre communauté doit prendre des décisions à l'encontre du roi de France, il faudra vous y conformer. Avant la troisième échéance, après un conseil secret, un caral, les Juifs désertent Paris avant l'aube et passent les portes du sud pour se trouver en sécurité chez le duc de Bourgogne. Tsingar, non averti, avait joué jusqu'à l'aube au bal de la cour. Alors, le violon, qui était resté un violon juif, l'entraîne irrésistiblement dans le ciel pour suivre l'exode. Tout le monde l'a vu, et les enfants de l'île racontent l'histoire. Chagall, alors, me montre le tableau du matin même. Peint dès son arrivée, un violon vert, un musicien rouge qui jouait dans le ciel, au-dessus de Notre-Dame, en volant vers le sud. Nous étions devenus, Chagall et moi, amis en 5 minutes.
Après ce cours ravissant pour enfants sages, retournons à l'école communale.
Celles du 4e, je les ai toutes connues successivement. En dernier lieu, rue Grenier-sur-Lot, j'ai eu affaire à un personnage d'une présence et d'une valeur exceptionnelle, un prof de cours complémentaire, il a fait son chemin, nommé Henri Guibé. Il enseignait à la fois l'anglais, les maths et les sciences. Un homme enthousiasmant, bien fait pour ridiculiser le mépris très normal sup que manifeste Jules Romain dans Les Copains, ont gens de formation primaire supérieure. Et puis, autre chose encore, le mécanisme d'esprit de nos petits copains nés à l'étranger et de nous, les autochtones, était différent. Et les échanges permanents de pensées que nous avions s'en révélaient d'autant plus efficaces et fructueux.
Et quel élève étais-tu ?
Très docile, toujours très bon élève. Avec parfois, dans les petites fièvres d'enfant que l'on peut avoir, l'obsession des dirigeables, des zeppelins. On me fait apprendre le piano. J'étais très doué, mais j'ai mal mordu à la vraie musique et je le regrette. Mon professeur était une très vieille fille, perruquée, biscornue, qui jouait méchamment. Et puis chez nous, les interminables récits de guerre. Mon père qui parlait de la Grèce, de l'Albanie, de la Turquie, de Sedulbar. Mes oncles syndicalistes qui se passionnaient pour les problèmes de l'URSS, on disait la Russie des Soviets. J'avais déjà la notion d'une certaine discipline, d'un certain renoncement difficilement acceptable pour un non-oriental. Entre-temps, j'apprends par goût la sténo-anglaise. J'ai toujours été très bon en anglais grâce au père Guibé. Je dessine avec fureur, je m'inscris à des cours de tout ce qu'on veut. Pendant des années, j'ai consacré tous mes loisirs, jeudi et dimanche, à explorer les galeries du Muséum d'Histoire Naturelle. Je passe un certain nombre d'examens, les doigts dans le nez. Au moment des vacances, je voyage en France, un peu partout. Mais un grand malheur me guettait. Mon oncle Desplanques, le brave homme, était directeur commercial d'une société de fabrication et de vente d'appareils d'ondulation indéfrisables, la fameuse permanente. C'était une nouveauté suite à l'engouement des années 20 pour les femmes qui avaient sacrifié leur chignon. Elle s'était fait couper les cheveux comme une petite fille gentille. J'étais devenu stélodactylo bilingue, comptable breveté au premier degré. Ma famille se soucie de mon avenir lointain et décide, sans me demander mon avis, que je prendrai la succession de l'oncle. Nécessité d'apprendre le métier de coiffeur pour dame, de A jusqu'à Z. Et me voilà aspirant pommadin chez un grand ami de chez nous, le maître coiffeur René Rambeau, rue Saint-Honoré au 400 dans la maison de Robespierre. La concierge, une poissarde, encaissait les pourboires des touristes. Elle faisait visiter l'immeuble à sa façon. « Vous voyez, quand on l'a pris, il était caché là, derrière le chauffage central. »
Tu nous évoques une période assez proche qui apparaît brusquement si différente qu'elle devient presque lointaine.
En 31, il y avait entre les classes sociales une différence, justement. Un hiatus beaucoup plus sensible qu'aujourd'hui. On observait chez les salariés, les subalternes, les gens de conditions modestes, une sorte d'insouciance, de gaieté, qu'ils ont perdu.
Mais pourquoi précisément dans ces années-là? Et où est la différence avant et après?
Par exemple, quand un événement crevait le plafond de l'actualité, dans les 24 heures, à tous les carrefours, on vendait la chanson du fait divers. Presque toujours une complainte, ça s'imprimait au croissant. Un goualeur à porte-voix, un accordéoniste, des fois un banjo, la prenait à la foule. Alors, noyade d'enfants sur une plage du Nord. « À Waterloo, autour de 13 petits cercueils, palalalalalam. » En 27, exploit de Lindbergh. « Avant d'avoir traversé l'Atlantique, il a fallu faire bien des essais. Cet oiseau qui vient d'Amérique est le symbole du progrès. » La fameuse fessée du curé de bonbon. « Ils étaient 12 fanatiques, dont 10 femmes, nous dit-on, pompon. Ils venaient mettre en pratique le régime de la flagellation. » Jusqu'en 30-31, le métier des goualeurs de foire consistait à installer leur tréteau, ils la traitaient comme on traite un tréteau, sur les marchés de campagne, dans les foires de province. Mais ils peignaient leur calicot et ils répétaient, place de la Bastille, « Le crime du siècle! Il a assassiné son père! Il a assassiné sa mère! Il a péri sur l'échafaud! Voilà le tableau !» Un gosse ou un singe faisait la quête. On emportait des pastilles miraculeuses. On les vendait. Tout le monde était content.
Pardon. Nous voilà bien loin de la coiffure, il me semble.
Le tout début de mon apprentissage, une épreuve terrible. Supplice, nécessité de piquer des tours de main, d'une habileté, d'une précision incroyable, des mois d'entraînement, est devenu par la suite rigoureusement inutile. Tortiller des tifs pour les faire cuire à l'étuvée. Bouillir dans des produits qui sentaient mauvais. S'escrimer au fer à friser sur des mèches postiches à l'odeur de cadavre. Et le soir, crevé de fatigue, de dégoût, je voyais bricoler mon père. Tout ce qui sortait de ses mains, un placard, un petit meuble, un fronton de desserte, avait son petit cachet de finesse, d'élégance. Et ça servait à quelque chose, ça durait. Moi, j'étais condamné au précaire, au tape à l'œil, à l'inutile. J'en crevais de colère rentrée, une obsession.
Pourtant, à te voir et à t'entendre, on a l'impression que même tes années d'apprentissage t'ont réservé de bons moments.
Enfin, mettons, des moments fructueux. René Rambeau m'a conféré le sens du social. C'était, c'est toujours, un véritable artiste. Mais de plus, non content d'avoir en quelque sorte créé le besoin chez la clientèle féminine et riche de confier au coiffeur ce système que nous qualifierions de pileux, il a réhabilité sa profession en conquérant pour ses collègues les plus obscurs un standing, une dignité à quoi ils étaient bien loin de prétendre.
Mais revenons à toi et à tes clientes.
Chez Rambeau, je n'étais que tout jeune assistant. Je passais les épingles à Monsieur Victor, à Monsieur Alphonse, adjoint au grand maître, lorsque l'on coiffait une Maharanée, ou Lady Mandel, ou Mrs. Wallis, épouse américaine du roi du cirage, qui a commencé sa fortune au début du siècle en récupérant la baleine exposée ici au jardin des plantes et qui pourrissait sous sa verrière. Ah, parlons-en du sens du social. Ces grands-ducs, ces princes, ces magnats, ces richards qui, avant, étaient pour moi des êtres mythiques, eux et leurs compagnes, crâneuses, jalouses, prétentieuses, ignorantes, odieuses. Elles venaient chez le coiffeur surtout pour se défouler en parlant de leurs petites affaires, surtout sentimentales, assez bassement ravalées d'ailleurs. Une fois, une aristocrate anglaise me fait convoquer dans un hôtel près de l'Étoile pour lui boucler les cheveux au fer. Elle me reçoit nue dans son bain, en présence de sa femme de chambre qui se marrait doucement. Je boucle la dame, sans manifester étonnement ni émotion, elle était sculpturale. Et je m'en vais. Eh bien, je ne suis pas méchant, mais j'avoue avoir ressenti une sorte de soulagement un peu plus tard, en lisant dans le journal que la même dame, voulant utiliser un fer électrique pour se boucler elle-même et dans le même costume, s'était électrocutée dans la même baignoire. Le jour, en 1932, où un fou nommé Gorgoulov a assassiné le président Paul Doumer, Faubourg Saint-Honoré, la nouvelle a fait traîner de poudre et tout le quartier l'a su en 3 minutes. Les manucures ont des antennes. Le coiffeur Victor, un homme sobre, midi même, avait fêté je ne sais quel événement au Vouvray. Il débordait d'émotions rentrées. Il éclate en sanglots. Il dit à sa cliente, « Ah, poor president has just been murdered. » Alors, Lady Montague, je suis très ému de la émotion du peuple français devant le mot subit de son président. Moi, j'avais une crise de fou rire, je savais pas où me fourrer. Je souhaite que les membres de mon propre famille... Elle a donné à Victor, à cause de sa cuite, 500 francs de pourboire.
Tu as quitté Rambeau ?
Chez Rambeau, j'avais fait connaissance et sympathisé avec des gens tout à fait épatants, certains admirables. Firmin Gémier, du temps qu'il jouait la chienne, et Napoléon à la Renaissance. Tous les soirs, j'allais lui fixer sa perruque. Marie Glory, Raquel Meller, Lucien Murator et Michel Simon, de qui on décolorait les cheveux au blond pâle quand il jouait la route des Indes au gymnase. J'avais confié à Michel Simon mon souci de soumettre à des gens sérieux une invention assez curieuse dont l'auteur était un vieil artiste de mon quartier, nommé Jean-Laurent Séma. Intervention de Michel Simon. Rencontre avec Clément Marais. Achat de l'invention pour une somme énorme à l'époque. Le père Séma se coule une vieillesse tranquille et l'on ne sait pas actuellement que nos modernes téléscripteurs des salles de rédaction à la Bourse, au PMU, doivent leur perfectionnement au père Séma, à mon intervention et surtout à celle de Michel Simon.
Étais-tu parvenu à une situation matérielle suffisante, bien que le métier te déplût?
Un coiffeur pour dames gagnait bien sa vie. Pour moi, j'avais les pourboires en horreur. Mais mon fixe variait de 35 à 50 francs par jour, plus le pourcentage. J'ai obtenu mon brevet professionnel d'État en 35, à 20 ans juste, et j'attendais avec impatience la fermeture du salon pour vivre ma vraie vie, celle du soir et de la nuit.
Mon cher Yonnet, je ne vais pas discuter des talents de coiffeur que j'ignore. Mais cette expérience a permis d'explorer, avec un certain cynisme, quelques couches sociales et de surprendre le représentant alors qu'il négligeait leur apparence. Mais tu savais déjà mener une vie en marge, nous en reparlerons la prochaine fois.
Lucien Farnoux-Reynaud vous a présenté Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Prise de son Serge Métifio. Collaboration technique Daniel Raffi. Assistant de production Jean-Pierre Pinet. Lucien Farnoux-Reynaud présente Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Troisième émission.
Nous voici à un tournant important, même déterminant, de l'existence de Jacques Yonnet. Sa vie en marge et le commencement de sa recherche de l'insolite.
De 31 jusqu'à la guerre, je travaillais à cette fichue coiffure en état d'indignation permanente. Alors le soir, dès que libéré, vie effrénée. Je m'étais inscrit à différents cours. Dessin chez Roger Limouze, perfectionnement d'anglais, plus anatomie comparée, géométrie descriptive et dessin industriel. Et puis j'ai eu la révélation du cénacle de la rue Jacques Callot, où l'on coudoyait des personnages hors mesure et tous de talent, et qui tous m'ont manifesté une amitié exactement émouvante. J'avais soif de tout. Je ne pouvais rentrer qu'avec ma dose d'insolite. Tout mon argent de poche, pendant des années, passait en livres, pas beaucoup de romans. On perd trop de temps. La documentation, surtout scientifique ou parascientifique. Enfin, ce qui était à ma portée. J'inclus là-dedans pas mal de tocades, en particulier des soucis de connaissances en ethnologie et d'histoire des religions, c'est-à-dire des disciplines mentales auxquelles se soumettent selon leur tempérament des gens construits de façon différente.
C'est la voracité de la jeunesse.
Je savais à peu près à quoi m'en tenir en ce qui concerne ce que pensent les gens de tous les jours, ou ce qu'ils prétendent penser. Cette sorte de scepticisme à fleur de peau date de l'histoire du crocodile.
Tu es allé voir un usurier ?
À Rambouillet, il y avait deux brocanteurs, le père Quémard, fournisseur des antiquaires parisiens, et un bonhomme très rigolo, un peu ivrogne, tout le temps fauché, le père Aventin. Il habitait Grousset, un faubourg réputé pauvre, un peu en dehors de la ville. Il vivait, fallait voir comme, de récupération et vente de ferraille, de vieux chiffons. Il faisait des débarras avec son âne et sa carriole. Moi, j'allais le voir de temps en temps. Un jour, dans la ville, un vieil original meurt. Le père Quémard se charge de l'estimation et du transport des meubles et de tout ce qui représentait quelques valeurs, en laissant à son collègue le soin de se charger du reste. Moi, j'ai récupéré dans l'affaire de vieux livres, certains de magie, absolument introuvables. Mais dans le reste, il y avait un caïman, 4,50 m, empaillé, et qui perdait son foin par son ventre décousu. J'aide le père Aventin à envelopper l'objet. On convient d'une énorme farce, on emporte le crocodile empaqueté en contournant la ville et on l'immerge à moitié, après l'avoir lesté de cailloux et recousu, dans la vase qui entoure l'étendeur. On l'amarre à un câble d'acier, on se planque derrière un arbre, des gens passent. Nous tirons sur le câble. Les gens approchent, identifient un crocodile, c'était facile, pétochoir, ils se tirent à toute pompe, avertissent les gendarmes. Les gendarmes constatent de visu, effrayés, rassemblent les pompiers, qui demande à la rescousse un détachement du 4e hussard. Le père Aventin et moi, nous étions malades de rire. Nous avions tellement tiré sur le câble que le crocodile dormait par 30 cm de fond entre les nénuphars. Personne ne l'a tué, ni cerné, ni fait fuir, bien sûr. Mais ils sont 50 à l'avoir vu, là où on ne le cherchait pas. Une femme a été poursuivie à la nuit tombante. Une autre a montré le bas de sa robe et de son caraco, happé, déchiré par le fauve. Plus tard, en 32, j'ai fait la connaissance d'un personnage très bizarre, âgé, suisse et théosophe. On l'appelait le docteur Amstein. Il m'a fait connaître, square rap, les occultistes de la salle Adyar. C'est là que j'ai approché Krishnamurti, de qui j'ai traduit The Pool of Wisdom, la mare de sagesse. Et puis, quand j'ai connu le milieu et éprouvé la naïveté de tous ces gens, je leur ai présenté un soi-disant médium, un bon farceur de mes amis, et dans la salle obscure, où ils avaient disposé un baquet empli d'eau, nous avons fait apparaître des farfadets et des ondines. Tout le monde a juré les avoir aperçus. Mais d'autres fois, j'avoue avoir été troublé par des expériences accomplies avec de vrais médiums.
Ah, tu as couru là un certain danger, car on subit parfois cruellement les conséquences de la fréquentation de désaxés et de ceux qui polarisent des forces qu'ils ignorent.
Pendant toute cette période de ma vie, j'ai exploré une couche sociale extrêmement difficile à approcher, à pénétrer, par de vrais adultes, des gens sérieux. De moi, tous ces gens en marge ne se méfiaient pas. Je leur portais une forte dose d'amitié irréfléchie, de confiance. Mon aspect physique jouait aussi. Le jeune homme effacé, fluet, poli, timide. C'est grâce à ça qu'à l'âge de 18 ans, j'ai publié dans la presse l'œuvre de Terry, mon premier entrefilet. 25 francs de pige.
C'est ce qu'on appelait en avant 14 un œuf sur le plat. La tude représentant le blond et le louis d'or le jaune.
J'avais marié un vague cousin. Je disposais d'un falzar à rayures, d'un veston noir et d'un col à manger de la tarte. Quand le négus Haïlé Sélassié, soi-même, a été reçu à Paris par les huiles du gouvernement, ça se passait à la gare de la Petite Ceinture au bois de Boulogne. Je me suis habillé en fils de ministre et faufilé dans l'ombre d'Albert Sarraut. Plante verte, tapis rouge, locomotive, tut-tut. Mais j'avais oublié de dire, j'appartenais à la chorale que dirigeait Rosemonde Gérard, la veuve de Rostand, et Tiarco Richepin. Tiarco avait auparavant reçu la visite d'un homme consterné, un musicien de la garde républicaine, sournoisement délégué à Addis Abeba, pour noter sur place la phrase musicale, non écrite en Abyssinie, de l'hymne éthiopois, comme disait Souplex. Pas moyen de tirer une ligne mélodique valable. Tiarco Richepin se dévoue. Alors je me trouvais à un demi-pas de distance entre le négus et notre président de la République. Fanfare, hymne éthiopois. Et je vois, et j'entends, le roi des rois qui prend le coude du président et qui lui dit avec un accent très 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 personnel « Comme elle est belle, votre Marseillaise !»
Oh, nous en sommes une activité très officielle.
Pendant des années, j'ai vécu ce qui s'appelle vivre la nuit. Toute la journée, je me maintenais à peu près en veilleuse. Le soir, survolté, sensible à tout, attentif à tout, passionné de tout ce qu'on veut, sans ordre, sans mesure. Je ne rentrais que crevé pour dormir comme une brute. Quelquefois, je jouais du piano. Je savais hasarder 3 java et 4 tangos, de quoi amuser un public vraiment pas exigeant. Et puis, je dessinais. Je dessinais tout le temps. J'ai commencé très jeune à étudier sérieusement d'après des modèles nus, à l'Institut d'esthétique contemporaine, rue Notre-Dame-des-Champs. Nous y disposions d'une très grande salle au rez-de-chaussée, avec une verrière à la hauteur du premier étage qui donnait rue Joseph Barat, là où habitait le fameux préfet Lépine. Je me souviens de son enterrement en 1933. Il y avait un tas d'officiels. Le cortège à pied a embouché la rue Notre-Dame-des-Champs, juste devant notre atelier. Chez nous, il y avait des échelles assez hautes. Et voilà 3 modèles nus, comme des vers, de très très beaux vers, qui grimpent aux échelles, sans se douter bien sûr qu'on les voyait de la rue. Oh, la tête des gens du convoi! Les croque-morts, les gardes, les types en tuyaux de poils, et les femmes, obligées de défiler devant 3 beautés qui rendaient les honneurs de toute leur innocence. Je n'en veux certes pas à la mémoire de l'excellent Lépine, du fort Chabrol et de la bande à Bonneau, mais à son enterrement, on aura bien rigolé.
Mais ces jeunes personnes n'avaient pas de poche. Il était question d'argent de poche.
Ah oui, l'argent de poche. Et ben voilà. En 1932-1933, le soir, très tard, après mes cours, qui se terminaient à 10h, j'avais mes habitudes dans une cave voûtée, tout près de Saint-Michel. La Bolée, ça s'appelait. Il y avait là 3 musiciens très bons. Accordéon, banjo, guitare. Une atmosphère crapuleuse sur les bords, voulue, c'est sûr, mais pas fabriquée. Les artistes seraient maintenant beaucoup plus que centenaires. Mais aussi de jeunes découvertes, qui faisaient trait d'union entre Damia et Piaf. C'est là, à la Bolée, que j'ai vu débuter une fille splendide qui posait nue à l'Académie Rançon. À Montparnasse, on l'appelait la Panthère. C'est devenue la chanteuse Anne Chapelle. Elle avait littéralement envoûté Francis Carco. Pendant des mois, il venait tous les soirs. C'est grâce à Carco que j'ai pu gagner une partie de ce fameux argent de poche. Un vieil Italien dessinateur faisait le portrait pour quelques francs, au crayon fusain. Moi, je m'amusais pour m'entraîner à croquer l'Italien pendant qu'il travaillait. Je dessinais aussi les artistes. Mais jamais pour du fric, je voulais pas empiéter sur le casse-croûte du collègue. Une fois, Carco me laisse étudier son profil. Des gens de passage, des ricains, ont voulu acheter mon dessin. J'ai accepté. Je leur avais rien demandé. J'étais ravi, un peu gêné. Carco a bien ri. On a fait plus amplement connaissance. Et tous les soirs, je tapais un portrait de Monsieur Francis. Des profils, des faces, des trois quarts. Je le connaissais par cœur. Et c'était l'animateur, un nommé Petit Louis, qui se chargeait de les vendre. Souvent, Carco, uniquement par gentillesse, acceptait de les signer. Pendant cette période, j'ai acheté chez Gibert des centaines de bouquins, très précieux maintenant. C'est là que j'ai commencé ma collection de livres sur Paris.
Voilà donc le dessinateur en action. Quant aux musiciens...
Il y avait dans la rue de la Huchette 2 bals auvergnats, au 5 et au 9, Bousca et Bouscatel. Moi, j'étais allé à l'école avec l'un des fils ou des neveux Bousca. Je ne dansais pas, mais je me plaisais aux musettes. Bien carré dans un petit coin où tout le monde m'ignorait, près de la musique, je faisais des croquis. Un jour, j'ai persuadé l'une des patronnes d'acheter un vieux piano, en souffrance chez un brocanteur. J'ai accompagné les musiciens du musette. Mais c'est que ça leur a plu, et qu'ils m'ont payé. Et depuis, on a fait des travaux chez Bousca. Le piano a changé de main. Il a été vendu à Madame Hermine, qui tenait dans la même rue une maison close, invraisemblable, dans un minuscule gourbi d'un étage. J'ai suivi mon piano chez Madame Hermine. J'étais là comme un coq en pâte. Il y avait trois pensionnaires qui me faisaient déchiffrer des romances sentimentales, des chansons fin de siècle. La clientèle, des gens du coin, de braves types qui venaient boire un pot en famille, sans se préoccuper, du moins à ma connaissance, de la spécialité de la maison. Ils s'étonnaient plutôt de la présence de ces dames, qui n'avaient rien d'affriolant. Mais la nuit, il venait des messieurs discrets, dans des voitures officielles ou semi-officielles, qui stationnaient sur le quai. Il y avait même un ministre, à barbe blanche, très savant, très respectable. Le canard enchaîné y va de ses allusions discrètes. Et puis un jour, la patronne a des difficultés passagères, fait des travaux. À son jour, elle cède le piano, qui échoue dans une boîte comme on n'en fait plus, comme on n'en fera plus jamais, le tango du chat de la rue Galande, autrement dit le bal des cloches. Les musiciens, accordéon, saxo et contrebasse, était juché sur un plancher volant qui tenait au plafond par deux câbles, exactement comme une étagère suspendue. Mais le contrebassiste, à cordes, qui ne pouvait jouer que debout, était allemand ou autrichien, tellement grand que le patron, il habitait au-dessus du bastringue, avait fait ménager tout simplement un trou dans le plafond. Et mon type y fourrait sa tête, que personne ne voyait, ça faisait un drôle d'effet. Longtemps, à cause du musicien sans tête, on a appelé le guinche à la guillotine. Là aussi, j'ai tapé quelque temps sur mon zinzin, et puis là, comme partout, transformation. On place les musiciens dans un habitacle moins pittoresque, mais plus décent. Le second soir où mon contrebassiste joue le visage découvert, deux malabars lui passent les menottes. Il était recherché depuis des mois pour je ne sais quel crime.
Oh, si nous en venons aux histoires policières.
Eh bien, j'en ai une, et elle est gratinée. C'était juste avant la guerre, la dernière. Quartier Porte de Versailles, dans un sixième aménagé en chambre de bonne, j'étais le voisin d'un Russe très pacifique et très silencieux. Un soir, j'avais remarqué un homme à l'air pas commode, un colosse à chapeau mou, espèce de crêpe, qui toute la nuit a marché de long en large devant la porte de mon voisin le Russe, et par conséquent la mienne. Le lendemain et les nuits qui ont suivi, mon colosse qui faisait les 100 pas s'était doublé d'un autre malabar, mais qui croisait en sens inverse. Ils avaient l'air non seulement de ne pas se connaître, mais de ne pas s'apprécier. Les jours suivants, on les a relayés l'un et l'autre. Et puis les anges gardiens ont disparu. Je n'ai plus entendu parler de rien, jusqu'au jour où j'ai appris que mon voisin n'était autre que Sédov, le fils de Léon Trotsky. Le maillotche numéro 1 représentait le GPU, tout simplement, avec la mission d'avoir au tournant son client dès que possible. Et le chapeau mou numéro 2 était le policier français chargé de veiller sur les actes inconsidérés possibles de son collègue russe. Ça s'est terminé de façon dramatique. Sédov, tous les matins, descendait prendre son café noir, toujours au même endroit, dans un petit bistrot. Une fois, au bon moment, on le fait appeler au téléphone. Sa tasse était servie sur le zinc. Le temps qu'il se rende à la cabine et qu'il en revienne, il a manqué de toc, quelqu'un avait eu le temps de frôler sa tasse. Sédov est mort, le jour même, empoisonné par des méningocoques. Je ne sais toujours pas ce que c'est au juste, d'ailleurs.
Ton histoire policière est surtout politique.
Ah, à propos de politique.
Ah non. Conservons cette question pour la semaine prochaine.
Lucien Farnoux-Reynaud vous a présenté Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Prise de son Serge Métifio. Collaboration technique Daniel Raffi. Assistant de production Jean-Pierre Pinet. Lucien Farnoux-Reynaud présente Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Quatrième émission.
Au cours de ta turbulente jeunesse que tu nous avais décrite lors des premières émissions, et pénétrant dans les milieux les plus divers, avais-tu des opinions politiques sur la mode de cette époque ?
J'ai jamais appartenu qu'aux jeunesses communistes, rigoureusement à rien d'autre.
Communiste ? Par idéal marxiste ? Ou par rancune contre une société que tu accusais de tes propres déboires ?
Mais l'idéal marxiste peut s'imposer à l'esprit de n'importe qui. Pas spécialement des exploités, des prolétaires. Est-ce que Marx était malheureux ? Quant à ma rancune contre la société, absolument pas. Je me trouvais fort à mon aise dans ma condition d'ouvrier fantaisiste, sporadique et de bohème nocturne. Toutes les occasions de s'enrichir, de compléter ses connaissances s'offrent à chaque instant, à chaque pas dans Paris, surtout lorsqu'on passe, ce qui était mon fait, sans transition d'une couche sociale à une autre. Le jour, je coudoyais le haut du gratin qui s'ennuyait à mourir. Le soir, des gens affamés d'apprendre tout ce qui s'enseigne et des professeurs exactement sublimes de patience, de compréhension, de bonne volonté. Et puis la nuit, la bohème, la demi-cloche, les bas-fonds, des fois la crapule. Et c'était cela les vrais. Non, c'est pas spécialement par indignation que j'ai adhéré à des organisations communistes, mais parce que pour moi, dans l'idée naïve, beaucoup trop honnête, que je me faisais de l'ordre profond des choses, le communisme, même très lointain, correspondait à un équilibre logique, à une explication, une justification, en somme valable, de ce que le présent avait d'absurde. Et puis, il y a eu le putsch hitlérien de 1933.
Mais à quelle raison attribues-tu la vivacité de ta réaction lors de cet événement?
Au quartier latin, à Montparnasse, et plus précisément dans le secteur d'Alésia, on a observé un véritable envahissement d'Allemands réfugiés, ou soi-disant tels, pas tous juifs et pas tous jeunes. Aussi, d'autres étrangers, beaucoup de Hongrois. La plupart faisaient de la peinture. Tous, très corrects, s'entassaient dans des appentis, des hangars, des débarras. On baptisait ça des ateliers. Autour de la place Falguière, rue du Moulin de Beurre. Presque tous étaient communistes, et ici, même les gens qui ne l'étaient pas, acceptaient ça avec sympathie, à cause de Dimitrov, la fameuse histoire de l'incendie du Reichstag. Provocation ridicule, le procès de Leipzig, Dimitrov vedette internationale, engouement pour son attitude, pour sa personne, et pour ce qu'il représentait, le communisme, surtout à l'étranger. Alors moi, soif de nouveau, romantisme, tout ce qu'on voudra, j'étais impressionné par ces types proscrits, tout juste toléré ici.
Naturellement, obéissant à ta nature, tu t'es forcé de satisfaire, dans la mesure du possible, ces exilés.
J'avais 19 ans. Je ne saurais jamais pour quelle cause, au juste, on a exploité ma naïveté, mon culot inconscient.
Mais peux-tu nous donner des exemples de naïveté associée au culot?
En premier lieu, c'est d'un voyage qu'il s'agit. Paris-Darmstadt et retour.
Un voyage? Compromettant.
Mes nouveaux amis avaient imaginé d'organiser boulevard Arago, au 123, une exposition anti-nazie, avec évidemment des statistiques. Je ne sais plus à quoi elles se rapportaient, mais ça faisait sérieux, scientifiquement matérialiste. Le principal des objets exposés, c'était des photographies assez atroces, fusillades, supplices, viols, tortures. Je me demandais comment on avait pu prendre ça sur place, et ensuite faire passer en France de tels documents. C'était vraiment accablant. J'ai su, beaucoup plus tard, qu'il s'agissait de séquences de films anti-nazis tournées en Russie. Moi, je m'étais dévoué, j'avais peint des pancartes, placé des photos sous Bristol, enfin mis la main à tout. Alors on me chauffe à blanc, on me parle d'une mission de confiance, portée dans la banlieue immédiate de Darmstadt, deux valises que je devais remettre dans une pension de famille. On me fournit un vrai faux passeport, alors que je pouvais aussi bien voyager sous mon nom. Tout s'est accompli sans histoire. Le paisible jeune homme qui voyage tranquille. À Darmstadt, la patronne de la pension où l'on m'a reçu faisait partie d'une société, d'une secte plutôt, d'obédience hindoue, la Weisheitsschule, école de la sagesse, et dont le rôle, sous Hitler, était de canaliser les esprits hors du christianisme. Je ne me sentais pas héros, le moins du monde. Rentré à Paris, je trouve le 123 boulevard Arago fermé par ordonnance de police. L'ambassade d'Allemagne avait protesté. Les camarades éparpillés dans Montparnasse. Ils avaient l'air plutôt gênés de me recevoir. J'ai été refroidi, et puis peiné, et puis intrigué.
Désillusion et déception.
Moi, c'était surtout cette atmosphère de conspirateur qui me manquait. C'est un jeune sculpteur juif, maintenant très connu en Amérique, Bruno Riesler, qui m'a remis dans le bain. Il m'a fait inscrire à l'université ouvrière de l'avenue Mathurin-Moreau. Qui n'a pas connu ça n'aura pas eu la vision exacte, complète, du parti de l'époque, l'UO. Un vaste espace, des bâtiments précaires, ça tenait de la Syrie et du bidonville. De véritables profs de fac, comme Georges Cognot, des aviateurs comme Bossoutreau, des écrivains comme Moussinac, des historiens, André Ribard, enseignaient là des tas de choses, mais surtout le marxisme, l'économie politique, le matérialisme historique. L'ennui distillé.
Parle-nous surtout des auditeurs.
Des gens de tous les âges, de toutes les conditions, venus de partout. Les Polonais, grosse majorité, Les Hongrois, les Bulgares, les Tchèques discutaient volontiers de la politique française. Ils se conduisaient comme ayant voix au chapitre, parce que leur intention était de s'installer ici, de s'incorporer et de ne pas partir.
Comment se comportaient les Allemands ?
Les Allemands, il y avait aussi des femmes, très viriles d'allure, se comportaient avec une certaine réserve, une sorte de pudeur, lorsqu'il s'agissait de nos affaires. Ils étaient nos hôtes, guests, et se comportaient comme tels. Et pourtant, quel canular !
Un canular ? Mais de quoi s'agit-il ?
Encore une fois, nécessité de restituer le climat de l'époque. Ici, les séquelles de l'affaire Stavisky, les remous politiques qui ont suivi le fameux 6 février. En Allemagne, à la une de tous les journaux et revues, la France pourrie par les francs-maçons et les juifs. Mais il y avait dans la machine allemande des éléments qui souhaitaient un rapprochement entre les jeunesses d'Europe, spécialement la française. Avec le recul, j'ai la très nette impression qu'un courant d'inquiétude se manifestait parmi certains Allemands. Leur organisation de jeunesse et de propagande, Kraft durch Freude, la force par la joie, clignait de l'œil de notre côté, du côté des gens de gauche, beaucoup plus que vers ceux qui très ouvertement se réclamaient du fascisme. Le 20 février 1935, une Allemande, peut-être 25 ans, très autoritaire, très dynamique, nous l'appelions Helga, fait prévenir d'urgence dans la même journée 18 jeunes gens, dont 3 filles, de nationalités différentes. Moi, on me téléphone à mon travail. Un rendez-vous rue Campagne Première dans une chambre d'hôtel. Nous devions être 2 Français. Le second n'est pas venu. Résultat, un jeune attaché à l'ambassade d'Allemagne, nommé Helmut Schreiber, invitait, au nom de Kraft durch Freude, la délégation que nous formions. Nous n'étions jamais délégués que par nous-mêmes, à accomplir un voyage d'information de quelques jours en Hitlérie. Départ le 22 au matin. Dans le train, j'ai fait la connaissance de l'autre Français, un garçon rondouillard qui déjà connaissait l'Allemagne, absolument charmant, mais qui ne cachait pas sa sympathie pour le nazisme. Nous croyions tout simplement qu'il poussait la blague un peu loin. Son nom, Robert Brasillac. Nous avons été reçus à l'université de Heidelberg. On nous a fait des discours absolument incroyables de vide, de bêtises, de ridicules pompeux. Aucun librettiste, dans aucune opérette, n'a jamais osé camper en charge des personnages aussi stupides, aussi vides que ceux qui nous ont reçus, militaires et civils. Et je ne parle pas des Corydons.
Mais vous avez reçu, paraît clair.
Adolphe était en pleine tournée de propagande et nous avons eu la chance de le rencontrer 3 fois. Il s'est trouvé à Heidelberg le jour même de notre arrivée. Le lendemain, il apprend notre présence et éprouve le besoin de nous offrir le thé dans un réfectoire d'étudiants. Un goûter spartiate qu'il nous a fallu avaler avec beaucoup de peine. Des piles de galettes faites avec des petits pois et des haricots, alors que les haricots du commerce étaient faits d'épluchures de pommes de terre. Et des bols de thé qui sentaient le pipi, servis dans des brocs par des sortes d'infirmières soufflées de mauvaise graisse. Le grand homme était entré tout souriant, entouré d'un état-major où nous n'avons reconnu personne. Alors Hitler y est allé de son speech, d'une banalité géniale. Quelques jours auparavant, il avait prononcé, surtout à l'adresse de la France, un discours lénifiant, où il renonçait, entre autres choses, à la cathédrale de Strasbourg. C'était gentil à lui. Et ça avait, si j'en crois l'illustration de l'époque, beaucoup contribué à dégeler l'atmosphère. Il nous a parlé, non comme à des visiteurs polis, venus s'informer sur place des choses de l'Allemagne, mais un peu comme à des représentants des différents pays d'Europe, alors que nous ne représentions rien du tout, venus s'extasier sur le Troisième Reich et lui faire à lui, Hitler, en quelque sorte un acte de soumission. C'est de ce jour-là, de cette heure-là, que je porte en moi une énorme indignation, une intense rancune contre tous les non-allemands attachés aux fonctionnaires d'ambassade, professeurs, ingénieurs, voyageurs, qui ont été plus ou moins les témoins de ce qui se passait dans ce pays de fous, parce que c'était bien un pays de fous, bonsoir.
La plupart de ceux qui revenaient d'Allemagne tenaient des propos alarmants qui n'alarmaient personne. Les Français étaient beaucoup trop occupés à se détester les uns les autres.
Hitler nous avait parlé assis, familièrement. Sans transition, il se lève. L'instant des prises de contact personnelles.
Mais vous avez des interprètes à votre disposition ?
2, un garçon et une fille. Beaucoup d'entre nous parlaient allemand. Moi, après tout, je suis parisien, avec un accent qui me faisait prendre à l'époque pour un anglais ou un tchèque. C'est justement en m'entendant auprès de lui, hasarder je ne sais plus quelle phrase allemande, que le Führer se met à me regarder sans me voir et à me parler, à moi, du problème des Sudètes. Heureusement, je n'ai pas eu à répondre. Hitler, à la consternation de son entourage, s'est lancé dans un monologue haché, ses tresses sont tendues, ses mâchoires tremblaient, ses yeux sont devenus ceux d'un ivrogne furieux ou d'un drogué. Il a couvert d'injures d'assez mystérieux éléments incorporés au peuple tchèque, et en particulier le président Beneš. C'était la première fois qu'Adolphe laissait pressentir en public l'invasion ultérieure des Sudètes. Ah, nous l'aurons observé de près, son fameux état de transe. J'ai su plus tard que lorsque nous étions partis, Hitler a appris qu'il s'était adressé à un Français incolore, non à un Tchèque nazifié. Il a piqué, paraît-il, une crise de fureur effroyable.
Tu étais déjà bien renseigné.
Un des rares civils qui l'accompagnait m'a raconté ça quelques jours après, à Nuremberg, où il était professeur d'histoire. Son attitude était nettement réprobatrice, ce qui était très étonnant. Son nom, j'ai des raisons de me le rappeler et de m'en souvenir longtemps. Mohl, Heinrich Mohl. Enfin, nous avons visité le sud de l'Allemagne, le duché de Bade, le Württemberg, la Bavière. Assisté à une conférence de presse dans l'esprit où la propagande nazie l'entendait.
Vous n'avez pas rencontré les vrais seigneurs du parti?
Nous n'avons rencontré ni Goebbels ni Göring, sauf en effigie, il y en avait partout. Mais nous avons goûté à cette atmosphère de fausse kermesse qui était celle de toute l'Allemagne. Nous avons assisté à Nuremberg à un soi-disant congrès nazi avec le fameux Lichtdom, la cathédrale de lumière, les gens extasiés qui s'empiffraient de saucisses au maraudins trempées dans de la moutarde qui n'était pas de la moutarde. Et nous avons coudoyé, interrogé des tas d'intellectuels, des chefs de chantier, des professeurs, des hommes de la rue. On nous a admis à contempler dans la brasserie de la vieille garde à Munich le Führer haranguant ses vieux compagnons. Une fois encore, en notre présence, il a piqué sa crise. Nous étions atterrés par les manifestations de cette médiocrité à tous les échelons, cette sorte d'aveuglement, de renoncement qui affectait à peu près tout le monde et de fatalisme qui paralysait les plus lucides. Certains de ceux-là nous ont confié, ou à demi-mot, leurs inquiétudes, leur désarroi, leur volonté de se raccrocher. Déjà, ils se sentaient terriblement isolés, réprouvés du reste du monde, à n'importe quoi de moins inéluctablement désastreux. Il aurait fallu parler, transmettre au monde la notion de ce vide, ces propos ineptes, ce tourbillon de conneries délirantes. Fallait crier au fou, à la chienlit, et non pas prétendre élever le débat et faire semblant de prendre au sérieux cette mascarade.
En rentrant en France, vous vous êtes séparés sans essayer de vous retrouver, de confronter vos impressions?
En France, je n'ai pas revu Basillac, mais j'ai lu Les Sept Couleurs, le livre qu'il a tiré de ses nombreux séjours en Allemagne. Il y désosse le phénomène nazi avec une lucidité, je ne dirais pas une pertinence, à quoi on était bien loin de s'attendre de sa part. Mais j'ai revu Heinrich Mohl, le prof de Nuremberg, qui ne m'avait pas paru très chaud en présence d'Hitler. Là, j'anticipe un peu sur mes prochains propos. Ça se passait à Nogent-sur-Seine, en septembre 40. Je m'y trouvais, je me remettais d'une blessure, j'étais prisonnier des Allemands. Je leur ai brûlé la politesse un peu avant Noël, et je circulais comme je voulais. La naïveté allemande est quelque chose de déconcertant. Or, à la commandanture de Nogent, il y avait deux interprètes. Moi, prisonnier, du côté français, et pour les Allemands, un sous-officier, Unteroffizier, nommé Heinrich Mohl. Nous nous étions reconnus, mais motus. Mohl était, on ne me l'a pas caché, anti-nazi à 100%. Un jour, il me demande de faucher un tampon. Il se confectionne une fausse permission pour Paris. Ici, il achète trois livres interdits en Allemagne. Hitler m'a dit, de von Rauschnick, un bouquin de Stefan Zweig et un autre de Toller, un communiste. Ni vu ni connu à Nogent, jusqu'au jour où un soldat nazi entre dans la piole de Mohl, cantonné en ville, repère les livres. Ça devait être en janvier 41, moi j'étais déjà dans le brouillard. Les Allemands n'ont rien dit. Ils ont requis des prisonniers français pour creuser un trou dans un coin du cimetière de Nogent. À l'aube, sans faire de bruit, sans jugement, un Feldwebel et quatre hommes sont allés réveiller Mohl. 10 minutes après, il était flingué et enterré.
À cet entretien, en partie sur tes rapports avec le nazisme, nous conserverons comme conclusion cette anecdote qui rappelle à l'auditeur que la guerre approchait.
Lucien Farnoux-Reynaud vous a présenté Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Prise de son Serge Métifio. Collaboration technique Daniel Raffi. Assistant de production Jean-Pierre Pinet.
Jacques Yonnet, dans le récit magique pour les amoureux du vieux Paris, vient d'être publié chez Phébus Libretto, rue des Maléfices. Cette série a été diffusée pour la première fois en 1963. À suivre.